France Inter.
Le journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 100 euros pour un Paris-Marseille, 85 pour un Lyon-Nice en juillet. Les prix affichés ce matin sur le site de la SNCF qui vient d'ouvrir sa billetterie pour les grandes vacances. Un été particulier puisqu'aux touristes s'ajouteront les visiteurs des JO. Avec quelles conséquences sur les disponibilités et sur les tarifs? On va voir ça. L'Assemblée appuie largement la stratégie française de soutien à l'Ukraine malgré les critiques contre les propos récents du président. Nous serons au Palais Bourbon. Emmanuel Macron qui veut en parler directement aux Français demain soir à la télé. Dans ce journal aussi, le fléau du chômage des jeunes en Turquie, le ras-le-bol des chercheurs français sur l'embryon face aux multiples recours judiciaires et la plus connue des courses de ski alpinisme pénalisée elle aussi par le manque de neige.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui le chef étoilé Pierre Gagnaire.
France Inter.
L'an dernier, Alexis, la SNCF a écoulé 24 millions de billets pour les grandes vacances estivales.
Un record qui pourrait bien être battu dès cet été. Les ventes de voyages en train sont ouvertes depuis 2 heures pour la période 6 juillet 11 septembre, qui comprend donc cette année les Jeux Olympiques et Paralympiques, et ça change évidemment la donne. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
Monsieur Train sur France Inter. Maxime, c'est un défi de taille que doit relever la compagnie ferroviaire.
Un été au cordeau hein, pour la SNCF, même si l'on y assure que JO ou pas, on est habitué à un plan de transport chargé en juillet et août. Cette année, 400 000 places sont toutefois proposées en plus sur TGV, avec pourtant le même parc que d'habitude. La SNCF espère surtout jouer sur les cadences, les flux, une meilleure organisation des horaires pour coller au mieux au calendrier des épreuves avec des doubles rames quand il faudra. Mais l'entreprise refuse de céder à la panique. Hein. Les Jeux Olympiques amènent des personnes en plus sur certaines lignes qui ne voyageront pas sur d'autres.
Alors Maxime, forcément on s'interroge aussi, les JO vont-ils faire augmenter les prix du train cet été?
Alors, réponse côté SNCF, vous vous en doutez, non. JO ou pas, même gamme de prix, même plafond et même mécanique du yield management, cette technique marketing qui, sur l'application SNCF, fait monter les tarifs quand la demande est forte, ce qui justement inquiète Bruno Gazot à la FNAUT, la Fédération des usagers.
Ma crainte, c'est que les gens remplissent les trains plus vite que d'habitude, et plus tôt que d'habitude, ce qui fait que les prix vont atteindre très vite les plafonds, ce qu'on appelle les cartes avantages, hein, qui ont été augmentées l'an dernier, donc les prix vont monter.
Les prix du train qui ont déjà augmenté hein, en moyenne en février de 2,6% pour couvrir les dépenses courantes d'électricité, de péage pour les TGV, mais il n'y aura pas d'incidence JO, redit la SNCF, qui promet des petits prix cet été, ces prochains jours aussi, même pour les retardataires qui auraient raté l'ouverture des ventes ce matin.
Maxime Deps, merci. Et n'oubliez pas les cheminots, c'est le message de Sudrail qui profite de cette ouverture de la billetterie estivale pour appeler les agents des guichets SNCF à la grève ce matin. Sont concernés aussi les salariés de la plateforme téléphonique 3635. On apprend à l'instant la mort de Philippe de Gaulle, fils du général. Il s'éteint à 102 ans après une vie consacrée à faire vivre l'héritage de son père. Lui-même s'était engagé dès 1940 dans les forces navales françaises libres. Après-guerre, il avait poursuivi une carrière dans la marine jusqu'au grade d'amiral. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions.
Il est 7h33, Emmanuel Macron va parler de l'Ukraine en prime time.
Oui, le chef de l'État sera demain soir l'invité des JT de TF1 et France 2 en direct de l'Elysée. L'Elysée où l'on doit être plutôt soulagé ce matin du vote de l'Assemblée. 372 voix hier soir en faveur de l'accord de sécurité entre Paris et Kiev. Celle de la majorité, de la droite, du PS, des écologistes et du groupe Liot. 99 voix contre, celle de LFI notamment. Le RN, lui, s'est abstenu. Laurence Perron au Palais Bourbon.
L'issue du débat ne faisait guère de doute.
Pour l'adoption, 372 contre 99. Donc l'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement.
Satisfaction du président des députés Renaissance, Sylvain Maillard.
Le pacifisme, c'est la défaite. Et c'est ce que nous avons dit une fois de plus ici.
Les socialistes, qui ont demandé une clarification sur les limites de l'engagement, pas d'envoi de troupes françaises, n'ont pas eu de réponse, pas plus que les écologistes, qui soulignaient que les importations de gaz de la France ont rapporté en 2022 plus de 5 milliards à la Russie. Ils ont pourtant choisi de voter pour. Communistes et LFI assument leur vote contre l'accord. Le communiste Pierre Dharréville.
C'est dans la tradition de la grande tradition pacifiste de Jaurès, voilà, mais ça n'enlève rien à la nécessité de mener des offensives diplomatiques, politiques.
Le RN est finalement sur la même position, mais leur abstention ne vaut clairement pas soutien au président de la République, le député Julien Odoul.
Qu'on le veuille ou non, on sortira de ce conflit uniquement par une négociation. C'est-à-dire les ennemis d'hier autour de la table, c'est pas une réunion entre copains, pour trouver le chemin de la paix, pour faire taire les armes.
Un débat vif dont chaque camp revendique la dignité et considère que vis-à-vis des Français et de l'histoire, il a rempli son rôle.
Aux États-Unis, en revanche, la nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine, 60 milliards de dollars, est toujours bloquée au Congrès. Maigre lot de consolation, la Maison-Blanche annonce ce matin en attendant une enveloppe de 300 millions, modeste de son propre aveu. Il s'agit de missiles antiaériens, de munitions, d'obus, minimum nécessaires à court terme, affirme Washington. Lui est l'une des principales figures de l'opposition russe en exil, ex-bras droit d'Alexei Navalny, Léonid Volkov, violemment agressé hier soir devant son domicile de Vilnius, en Lituanie. Selon son équipe, quelqu'un a brisé la vitre de sa voiture, l'a aspergé de lacrymogène avant de le frapper avec un marteau. Pas question pour autant d'abandonner le combat, déclare ce matin Volkov en rentrant chez lui, le bras en écharpe. Pour lui, cette attaque est typique du mode opératoire des hommes de main du Kremlin. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Un calme précaire ces dernières heures dans les rues de Port-au-Prince, en attendant la nomination d'un conseil de transition politique en Haïti, dans les 48 heures selon Washington. Après la démission du Premier ministre Ariel Henry sous la pression des gangs, à son tour, la France décide l'évacuation de son personnel diplomatique non essentiel. En Turquie, une colère sourde contre une croissance économique qui ne profite pas à tous, loin de là. L'an dernier, le PIB turc a augmenté de 4,5%, mais dans le même temps, l'inflation atteint des sommets, plus 67% sur un an en février. Quant au chômage, mauvaise surprise, il rebondit en ce début d'année à plus de 9%. Et les jeunes sont particulièrement touchés. France Inter à Istanbul, Marie-Pierre Véraud.
Our a 25 ans. Diplômé d'une école de tourisme, il ne parvient pas à trouver un emploi correctement rétribué et a choisi de travailler comme guide en freelance.
Je me souviens, il y a une dizaine d'années environ, quand vous sortiez avec un diplôme de l'université, vous trouviez facilement un travail. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la pire des situations. Vous le savez, c'est tellement dur en ce moment. Si vous voulez décrocher un boulot, il ne faut pas être regardant sur les conditions.
Travail sous-payé, non déclaré, beaucoup de diplômés songent à l'exil. Le taux de chômage des femmes est encore plus élevé, un niveau d'éducation plus faible, un discours politique qui les consigne à la maison. Ayten se contente de petits boulots au noir, mais elle se fait du souci pour son jeune fils. Cette supportrice de toujours de l'AKP, le parti au pouvoir, ne cache désormais plus son désarroi.
J'ai beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que ce gouvernement essaie de couler ce pays ou alors ce sont des incapables? Pour moi, il faut en changer.
Il y aurait, selon les syndicats, quelques 10 millions de chômeurs en Turquie. C'est 2 millions de plus qu'il y a un an, 5 millions de plus en 10 ans. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
60% de décès en moins depuis les années 90 dans le monde. La mortalité infantile atteint un plus bas historique selon l'ONU. En 2022, nous sommes enfin passés sous la barre des 5 millions de morts parmi les enfants de moins de 5 ans. Les Nations Unies l'attribuent à des avancées sur la maternité, la nutrition, la vaccination. Mais attention, ces progrès majeurs depuis 30 ans sont en train de nettement ralentir ces dernières années. En France, pourquoi la recherche sur l'embryon est-elle entravée ? Autorisée sous condition depuis une vingtaine d'années seulement, elle doit permettre d'améliorer les tentatives de fécondation dans le cadre des PMA par exemple. Mais très régulièrement, les projets scientifiques sont contestés en justice, notamment par une association, la Fondation Jérôme Lejeune, qui assume, je cite, « une veille citoyenne des recherches détruisant les embryons humains ». Victor Dolande, pour les spécialistes de la reproduction, trop c'est trop, il lance l'alerte.
Dans un parcours de PMA, une grossesse sur cinq n'arrive pas à son terme. Pour choisir un embryon à implanter plutôt qu'un autre, les biologistes se fient uniquement à sa morphologie. Le diagnostic préimplantatoire et la recherche sur l'embryon permettent d'améliorer la fiabilité et donc d'éviter des fausses couches. Sauf que depuis 2004, la Fondation Jérôme Lejeune a déposé pas moins de 47 recours contre 190 projets de recherche. Marine Poulain est professeure en biologie de la reproduction à l'hôpital Foch de Suresnes.
Il y a un peu des fantasmes par rapport à cette recherche sur l'embryon humain et ce diagnostic préimplantatoire. Ce test génétique permet uniquement important de donner des informations supplémentaires sur un potentiel de donner ou non une naissance vivante. Ça ne modifie aucunement l'embryon. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire de choix de l'embryon qu'on va transférer pour arriver plus rapidement à la grossesse.
Le professeur Samir Amama, chef du service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier, en a marre de ces procédures à répétition.
Pour éviter de replacer un embryon chez une femme dont on sait qu'il va faire une fausse couche ou l'embryon ne va pas s'implanter, il faudra bien faire la recherche.
De son côté, la Fondation Jérôme Lejeune affirme ne pas être opposée à l'évolution de la science et de la médecine. Quand on dépose un recours, poursuit-elle, c'est uniquement pour contester la légalité d'une autorisation de recherche.
Victor Dolande. Paris-Nice, c'est la course cycliste, mais aussi l'affiche du dernier quart de finale de la Coupe de France de foot. C'est ce soir, coup d'envoi 21h10. Pour ceux qui préfèrent le ski, la plus célèbre des courses de ski alpinisme débute aujourd'hui en Savoie. La Pieramenta, la Mecque du ski de randonnée. 200 équipes prennent le départ de cette 38e édition au cœur du massif du Beaufortin. Mais cette compétition mythique n'échappe pas au bouleversement climatique en montagne, moins de neige, beaucoup moins de neige à basse et moyenne altitude. Il a donc fallu s'adapter, Jérôme Val.
Les organisateurs de la Pieramenta ont dû revoir leur plan. Faute de neige aux lieux habituels, les aires de départ et d'arrivée ont été installées plus haut en altitude. L'an passé, les concurrents avaient rallié l'arrivée d'une étape à pied sur de la paille. La neige avait disparu. Et c'est presque devenu courant, regrette Emilia Rope, tenante du titre.
D'année en année, c'est de plus en plus dramatique. On dit ça un peu tous les ans, j'ai l'impression, mais là, c'est quand même assez significatif, le manque de neige en bas. On part un peu les skis sur le sac, des fois, quand on veut aller un peu en montagne. Ça change la pratique. Il y a des compétitions qui doivent être annulées par manque de neige.
L'athlète de 26 ans mesure l'ampleur des dégâts autour de chez elle en Savoie avec des inquiétudes. Si la neige se raréfie, la pratique du ski alpinisme devient plus risquée.
Le gel, dégel, le changement de température fait que c'est beaucoup moins stable. Tout de suite, les cailloux ils ressentent un peu plus. Si on tombe, ben voilà, les rochers, ils sont jamais hyper loin. On est confronté en fait à des conditions qu'on ne connaît pas forcément très bien encore.
La tristesse qu'Emilia Rope dit éprouver à la vue de ces paysages sans leur manteau blanc, elle veut l'oublier sur cette Pieramenta. Une course à part, 4 jours d'étape avec 10 000 mètres de dénivelé et la neige au sommet qui tient pour l'instant.
Le ski alpinisme ou ski de rando qui sera donc discipline olympique à partir des prochains Jeux de Milan dans 2 ans.
Merci Alexis Morel.